With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité sur le football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. On commencera évidemment par débriefer l'actualité de la Ligue 1 avec Elton Mokolo. On parlera de Marseille, de Lyon, mais aussi de toutes ces équipes qui connaissent des records de points et de ce championnat complètement fou. On enchaînera ensuite avec l'histoire d'amour naissante entre l'Angleterre et William Saliba, exceptionnel face à Chelsea. Saliba est-il le meilleur défenseur de Première Ligue ? On posera la question à Philippe Auclair. On enchaînera ensuite avec la Juventus Turin. Une question là aussi toute simple, la Juve peut-elle encore croire au titre ? On posera cette question brûlante à Guillaume Maier-Pecchini après la victoire de la vieille dame face à l'Inter Milan. On se projettera ensuite sur le Mondial et sur la liste allemande qui sera révélée jeudi. David Lortolari nous expliquera les défis qui s'opposent à Hansi Flick et de savoir s'il y aura quelques invités surprises. Vous verrez qu'il y a des noms que vous connaissez sûrement. Et on terminera cette émission par évoquer Villarreal qui a perdu Unai Emery, qui a récupéré Quique Setién, mais qui surtout est dans une période de crise. Anna Caro vous expliquera tout ça. Voilà, vous connaissez le programme. Petit rappel, évidemment, Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis en podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. Il suffit de taper Eurosport FC. Vous trouverez également tous les podcasts foot d'Eurosport, à savoir Mercredi Mercato et le FC Stream Team. Et sinon, rendez-vous sur Eurosport.fr pour les meilleurs moments de cette émission en vidéo. Alors, vous connaissez le programme. Tour d'Europe, c'est parti! Allez, on commence ce Tour d'Europe par la Ligue 1. On accueille Elton Mokolo, notre spécialiste de notre championnat préféré. Comment ça va, Elton ?
Bonjour Cyril, je vais très très bien.
Bon alors, on va débriefer ce week-end où il s'est passé encore beaucoup beaucoup de choses. On va peut-être commencer par la fin et cet Olympico. Cette victoire, petite victoire, mais ô combien précieuse pour l'Olympique de Marseille, qui a battu Lyon 1-0. Première question, comment tu as trouvé ce match-là ? On a vu des commentaires assez négatifs sur la qualité de jeu proposée par les deux équipes.
Ah, c'est un match décevant dans la globalité, ça s'explique par plusieurs raisons. Déjà du côté de l'Olympique de Marseille, on n'est pas en crise, mais c'est tout comme, il n'y a qu'à voir l'ambiance particulière du Vélodrome. Donc forcément, l'Olympique de Marseille est impacté par sa série récente avec des matchs qui ont été négatifs en termes de résultats, que ce soit en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions. Et l'Olympique Lyonnais, c'est dans la continuité depuis le début de saison, à savoir une équipe qui est en difficulté.
Alors on va peut-être d'abord parler de Marseille. Justement, tu as évoqué la crise que traversait l'OM. L'OM s'est relancé, au moins au classement. Est-ce que la crise de l'OM est derrière elle ou est-ce qu'on risque de connaître une saison un peu cyclique à Marseille avec des cycles de résultats qui s'enchaînent, parfois très bons, parfois très mauvais, ou est-ce que l'absence désormais de compétition européenne devrait rendre la saison marseillaise plus constante et plus lisible, on va dire ?
Pour moi, c'est l'interrogation quand on parle de l'Olympique de Marseille, à savoir que maintenant qu'il n'y a plus la Ligue des Champions, on peut s'attendre à ce que cette équipe, avec un match par semaine, soit davantage compétitive, même si elle l'est déjà. Après, c'est vrai qu'il y a un problème qualitatif, il ne faut pas l'oublier, il y a un problème qualitatif sur certains postes, et tu as du mal à traduire ta domination. Bon, il se trouve qu'hier, tu marques sur ton premier tir recadré de la première période, tu as été réaliste. Mais pour autant, par rapport à la suite de la saison, moi, j'ai quand même tendance à être optimiste par rapport à l'Olympique de Marseille, parce qu'on voit que c'est une équipe, même s'il y a eu une crise, je le dis bien entre guillemets, une crise, parce qu'on était quand même sur un calendrier qui a été assez exigeant en termes de matchs déjà.
Absolument.
Et surtout en termes de qualité d'opposition avec le PSG et plus récemment Tottenham, et je peux même ajouter l'Olympique Lyonnais. Et ben moi je me dis que l'Olympique de Marseille, ça va mieux aller à partir de la seconde partie de saison avec des ajustements via le Mercato.
Bien sûr, alors avant le Mercato, il y a ce match face à Monaco dimanche prochain. Est-ce que Igor Tudor a définitivement sauver sa tête selon toi? On a l'impression que ce match, ça pouvait être aussi une bascule pour lui et que ce résultat et cette victoire 1-0 lui donne beaucoup d'air et surtout de la continuité. On sait que Pablo Longoria tient à lui, c'est lui qui l'a choisi. Cette victoire conforte un petit peu Tudor malgré tout.
Alors on entendait bien du côté de l'Olympique de Marseille qu'il y avait des contenus qui étaient franchement intéressants. Laurent Blanc avant le match avait parlé d'une équipe malchanceuse. Mmh. Donc forcément t'as beau dire que oui, il y a des contenus qui sont intéressants, mais le résultat est une sanction. Or, l'Olympique de Marseille n'avait pas les résultats en sa faveur, si bien que Igor Tudor pouvait être contesté. Là, ça va lui donner un peu d'air. Il se trouve qu'il va y avoir un match face à Monaco, le cinquième du championnat, alors que l'Olympique de Marseille est quatrième. On ne va pas faire un dessin. C'est un match qui est très important par rapport au fait que déjà ces deux équipes qui sont candidate pour le podium qui s'affronte et que pour l'Olympique de Marseille, il faut bien terminer l'année. Bon, même s'il y aura encore un match avant de terminer l'année 2022.
Elton, on va parler de l'autre équipe, celle qui a été battue au Vélodrome dimanche, l'Olympique Lyonnais. On va surtout parler de Laurent Blanc. Ça fait désormais 4 matchs qu'il est arrivé. C'est 2 victoires et 2 défaites. On avait évoqué il y a quelques semaines son arrivée en se demandant si Laurent Blanc avait vraiment fait toutes les mises à jour quant au football moderne. Sur ce que tu vois pour l'instant de cette équipe et de Laurent Blanc, c'est quoi ton premier bilan ?
Ce que je retiens, c'est que Blanc n'est pas le problème et n'est pas non plus la solution pour l'Olympique Lyonnais. Ça dépasse la figure de l'entraîneur. Il y a un problème qualitatif dans cet effectif. C'est bien simple, il y a un problème aussi footballistique, un problème athlétique. On en parlait en off et ça, c'est quand même inquiétant. Et il y a surtout un problème émotionnel. Pour la 14e fois, Lyon a été mené sur l'année 2022 et n'a toujours pas réussi à inverser la tendance. Donc ça démontre bien que Lyon a besoin d'être dans un certain confort pour remporter des matchs. Or, quand tu affrontes des équipes de haut de tableau comme l'Olympique de Marseille, il se trouve que tu peux avoir des moments de difficulté où tu peux encaisser le premier but et c'est pas pour autant que tu ne dois pas réagir. Donc du côté de l'Olympique Lyonnais, on voit bien que le chantier est vaste et Laurent Blanc a été très lucide et pour le coup, ça a salué, il a été très lucide, il n'a pas été dans un discours langue de bois. Ouais. Comme un entraîneur qui pourrait arriver et qui pourrait se dire « Oui, on va travailler. » Laurent Blanc, il a connu le PSG, il a connu l'exigence, il a connu la haute compétition. Il sait que quand tu n'es pas au niveau, tu n'es pas au niveau.
Yeah. On va insister peut-être sur l'aspect athlétique des choses. Il l'avait dit dans sa première conférence de presse. Une fois qu'il avait trouvé le groupe, il avait fait un état des lieux physiques en se disant « Mais c'est très, très insuffisant. » On l'a encore vu dimanche face à l'OM. Boateng encore et toujours sorti en cours de match. Mais même une carence physique assez nette et très rapidement dans le match. On a eu l'impression qu'à partir de la 40e minute, l'OL était incapable de répondre à l'intensité mise par les Marseillais.
C'est pour ça que c'est ironique parce qu'on parle d'un Olympique de Marseille qui enchaîne beaucoup de matchs et un Olympique Lyonnais qui n'a qu'un match par semaine. Pourtant, quand tu vois le niveau athlétique, on a tendance à se dire que c'est plutôt l'Olympique de Marseille qui joue un match par semaine. Dans le football de 2022, c'est incompatible, enfin c'est pas possible d'arriver avec ce niveau athlétique, ne serait-ce que pour dominer les phases de jeu. Il y a 4 phases de jeu qui sont reconnues dans le football. L'attaque, la défense, quand tu récupères le ballon, quand tu le perds. Or, il se trouve que quand tu récupères le ballon, face à une équipe qui a un pressing comme l'Olympique de Marseille, il faut être en mesure d'avoir beaucoup plus de courses, beaucoup plus de verticalité. Et là, pour le coup, on voit une équipe lyonnaise un peu trop positionnelle.
On a aussi l'impression que dans le choix des joueurs, il navigue un petit peu, Laurent Blanc, c'est-à-dire qu'il découvre l'effectif. Il aimerait potentiellement pouvoir jouer en 4-3-3, mais l'état de forme lyonnais et l'assise défensive lyonnaise l'empêchent un petit peu d'utiliser ce système-là. Hier, on a vu un 4-4-2 un petit peu particulier, avec notamment Kakré et Aouar qui étaient censés être excentrés. On a vu les entrées plutôt réussies pour le coup de Adélaïde. Cherki, c'est encore un autre débat. Tété. À quoi il faut s'attendre peut-être pour la suite de la saison lyonnaise et sur quel homme il faut absolument s'appuyer selon toi ?
Quand on voit sur les 4 matchs que du côté de l'Olympique lyonnais, le niveau est homogène, c'est pas forcément rassurant. Laurent Blanc avait pris le parti d'avoir un 11 expérimenté, il l'a pas caché. Dans une situation de crise comme il l'avait évoqué, il faut des hommes expérimentés pour sortir l'Olympique lyonnais de cette mauvaise passe. C'est pas comme si les hommes expérimentés en question avaient répondu de la meilleure des manières. Donc on voit bien que le groupe lyonnais est homogène et qu'il va falloir trouver des leaders, des joueurs qui soient référents pour permettre à l'Olympique lyonnais d'avoir un, cette capacité à être compétitif et deux, remporter des matchs, ce qui est la chose la plus importante.
Clairement. Elton, on voulait aussi parler avec toi, plus globalement, de cette Ligue 1. On a un classement qui est absolument incroyable puisqu'on a le Paris Saint-Germain qui est leader certes, mais derrière on a Lens, Rennes, Marseille, Monaco et Lorient qui se tiennent en 6 points avec notamment pour Lens,
Paris aussi qui réussit le troisième début de saison statistique, de meilleur début de saison statistique de l'histoire. Est-ce que c'est pas la meilleure version de la Ligue 1 au 21e siècle presque, et de voir toutes ces équipes là qui sont à la fois récompensées par leur projet de jeu mais aussi récompensées comptablement, on a envie de dire.
On peut le dire, c'est la meilleure image que peut offrir la Ligue 1, parce que la Ligue 1 a besoin d'avoir un championnat qualitatif. Ouais. On a évoqué les équipes, tu as quasiment la moitié des 6 équipes qui font leur meilleur début de saison depuis qu'ils sont arrivés en Ligue 1. Donc c'est quelque chose de très satisfaisant. On parle de 6 équipes qui sont quasiment à 2 points de moyenne. Ouais. Donc par rapport à ça, ça devine quoi ? Ça devine l'idée que ces équipes-là, non seulement gagnent des matchs, sont régulières, mais sont surtout récompensées par le jeu, parce qu'on parle d'équipes proactives qui ont la volonté de regarder le but adverse et donc forcément qui sont récompensées. Donc pour moi, par rapport à la Ligue 1, et Dieu sait qu'on a beaucoup parlé de la Ligue 1 dans les années précédentes comme d'un championnat où c'était un championnat à plusieurs étages, à plusieurs niveaux, là le fait d'avoir un resserrement positif en haut de la Ligue 1, c'est quand même quelque chose de très rassurant.
Alors, dans ce top 7 ou top 6 pour le coup de Ligue 1, on a des équipes qui sont un peu en surperformance. Est-ce qu'il faut s'attendre peut-être à un ralentissement après la Coupe du Monde de la part de Lens, de Lorient évidemment, qui est l'invité surprise. Toi, qui tu vois en fait continuer de rester dans ces hauteurs-là et continuer à lutter pour le podium?
Alors, il y a plusieurs cas. Ouais. Lens, on regarde que Lens a 33 points. Exactement. 33 points. De manière statistique, aucune équipe n'est sortie du top 3 après avoir pris 33 points. Okay. Et le moins bon classement, c'est troisième, si je dis pas de bêtises. C'était, je l'ai pas en tête, mais c'était une équipe qui avait déjà 33 points.
Donc, podium garanti.
Podium
garanti
selon l'histoire. Okay. Maintenant, je te dis ça, Cyril, il y a quand même 6 équipes qui sont quasiment à 2 points de moyenne. Donc, ça veut dire que jusqu'au bout, Lens va devoir cravacher pour avoir une place européenne. Maintenant, pour Lorient, on a dans l'idée que ça va un peu rentrer dans le rang de manière très logique. Lorient, ce n'est pas une équipe programmée pour rester dans le top 5. Par contre, pour Monaco, pour l'Olympique de Marseille, on attend une montée en puissance. Alors, elles ne peuvent pas faire beaucoup mieux parce qu'elles sont déjà à 2 points de moyenne, mais pour avoir une place en Ligue des Champions, et Dieu sait que c'est compliqué pour arriver en Ligue des Champions, avec 2 places qui sont garanties jusqu'à la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, il va falloir cravacher. Donc moi, je me dis, montée en puissance pour Monaco, pour Marseille. Lens, on va voir. Pour moi, Lens, c'est une petite inconnue, même si Lens, de par son projet de jeu, il y a une progression constante. Francaise en a parlé après Angers. Il y a surtout la volonté de battre le record de la saison dernière. C'était 62 points, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont déjà fait plus de la moitié. Ensuite, on va voir ce qui va se passer avec Lille, avec Lyon, qui sont hors du top 5 de manière factuelle, mais qui peuvent aussi monter en puissance.
Et ben voilà, on suivra évidemment le feuilleton de la Ligue 1. Merci beaucoup Elton, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Merci Cyril.
A priori, ce sera une émission un petit peu particulière. On parlera de Ligue 1, mais on fera surtout le bilan de cette première partie de saison avant de se projeter sur la Coupe du Monde. Allez, on enchaîne avec l'Angleterre. On accueille Philippe Auclair, notre spécialiste de Première Ligue. Salut Philippe. Le dimanche, connu Salut. Par le Royaume, a été très 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 chargé.
Très agité, très surprenant, des résultats qui ne correspondaient pas nécessairement à ce qu'on attendait. Et pour une fois, tu sais que je suis toujours hésitant à tirer des enseignements, pour reprendre une expression courante, de quelques matchs. Mais en l'occurrence, je pense que là, on peut le faire. En ce sens que ce qui s'est passé à Chelsea, ce qui s'est passé à Tottenham, ce qui s'est passé à Aston Villa, c'était pas des matchs sans conséquences, particulièrement... au stade de la saison où nous sommes, où on s'apprête maintenant pratiquement à quitter nos championnats respectifs pour le rendez-vous au Qatar.
Oui. Alors, on va commencer avec le leader, Arsenal, qui pourrait donc aborder la Coupe du Monde en tant que leader. Il ne reste plus qu'une journée avant cela. Victorieux à Chelsea, dans un match où Chelsea n'a quasiment pas existé. Toujours plus haut, toujours plus fort, ces Gunners, finalement.
Oui, et peut-être la performance la plus satisfaisante de la saison pour eux. Je sais que ça peut paraître bizarre dans la mesure où ils ont déjà battu Tottenham, quand même, dans le derby qui compte plus que tous les autres pour les fans. Il y a eu la victoire sur Liverpool également, qui était quelque chose qu'on attendait depuis un bon bout de temps. Il y a eu d'autres performances d'excellente qualité. Mais celle-là, franchement, gagner à Chelsea, même si Arsenal l'a fait dans le passé, je crois qu'en 2020-2021, ils avaient fait le doublé en championnat sur Chelsea. Mais de le faire de cette façon-là, en effet, ça montre, c'est plus que ça montre, ça démontre les progrès accomplis par Mikel Arteta. Et il suffisait de voir d'ailleurs le sourire qu'il avait après cette victoire lorsqu'il a parlé à nos confrères de Sky Sports pour comprendre qu'il s'agissait d'un match pas comme les autres. Pour la première fois, il a dit « Oui, nous sommes dans la course pour le titre ».
Exactement, c'est ce que j'allais te lancer là-dessus.
Absolument, et c'est d'ailleurs une assertion qui est reprise par quasiment tous les analystes et tous les journalistes qui ont suivi ce match, les commentateurs, les consultants. Bah, tout le monde s'accorde à dire que ça a été une performance qui n'était pas loin de la perfection à certains points de vue. Contre Chelsea, extrêmement décevant, très peu entreprenant, ce qui est un petit peu une surprise quand on sait qui est leur entraîneur, Graham Potter, qui a quand même pas vraiment la réputation d'être un coach négatif. Mais là, en l'occurrence, on avait l'impression qu'Arsenal jouait devant son propre public. J'ai pas souvenir d'un seul arrêt compliqué que Aaron Ramsdale ait dû faire. J'ai par contre souvenir de pas mal de ratés d'Arsenal, Odegaard, Gabriel Jesus, face au but de Mendy, qui aurait pu peut-être dans d'autres conditions, d'autres circonstances, leur être avoir des circonstances, un impact négatif. Là, ça n'a pas été le cas. Et même en toute fin de rencontre, et Dieu sait que les fans d'Arsenal généralement terminent ce genre de rencontre quand leur club mène 1-0 derrière le sofa, avec les mains sur les oreilles ou devant les yeux, parce qu'ils ne tiennent pas, ils savent qu'il va se passer quelque chose. Là, c'était le calme absolu, le contrôle total de A à Z. Ce qu'ils n'avaient pas su faire à Manchester United, par exemple, ils l'ont fait à Chelsea. Il y a une énorme différence. C'est une équipe qui croit en elle-même et dans laquelle maintenant, il n'y a plus véritablement de zone de faiblesse. Et par contre, il y a des zones de force. Il va falloir qu'on parle quand même d'un certain William Saliba.
Mais tu fais tous mes lancements, Philippe. Alors, évidemment, on va insister sur William Saliba. Élu homme du match face à Chelsea, qui a mis tout simplement Pierre-Emerick Aubameyang dans sa poche, on a envie de dire, il n'a pas existé, le pauvre. Depuis son retour à Arsenal cet été, c'est absolument monstrueux ce que montre Saliba, et qui est très bien accompagné et par Ben White à droite et par Gabriel. Est-ce que, je vais commencer par une question peut-être un peu provocatrice, mais est-ce qu'actuellement Saliba n'est pas le meilleur défenseur central de Première Ligue?
Alors, tu vois le fait que j'hésite.
Ouais.
Et tu vois, parce que je passe les noms en revue dans ma tête. Il fait une meilleure saison que Virgil van Dijk, qui est peut-être dans l'absolu, qui est même sans doute un meilleur défenseur que lui. À Manchester City, il y a beaucoup de turnover donc, au niveau de la défense centrale. Donc, c'est difficile de dire qui est au top là-bas, entre Diaz, Laporte, Akanji, Ake, Stones, etc. Il y a énormément de turnover. Tu continues de regarder. Bon, c'est certainement pas Eric Dier qui va menacer William Saliba pour le titre de meilleur défenseur central de Première Ligue en ce moment. Du côté de Manchester United, Raphaël Varane était bien, mais on sait, malheureusement, hélas, mille fois, est blessé.
Il est dans la discussion, en tout cas.
Oui, il est dans la discussion, mais sur ce qu'on voit depuis le début de saison, au niveau de la constance, de la régularité des performances, je crois que William Saliba est un nom qu'on peut mettre en avant, absolument, comme étant... Tu vois, ça m'étonne de dire ça, j'essaie, parce que j'ai horreur de l'hyperbole, mais depuis le début de la saison, ce qu'il nous montre est tout simplement exceptionnel. Et ce qu'il nous montre, c'est exceptionnel dans le calme, le contrôle, la lucidité, la complétude. Alors, il a la chance, et je crois que c'est très important que tu aies mentionné leur nom, d'être encadré, en effet, par un excellent Ben White, qui est défenseur central au départ, mais que Mikel Arteta, maintenant, a déplacé sur le côté droit et qui fait une saison formidable. Et s'il n'est pas dans le groupe de Southgate, qui est annoncé au passage ce 10 novembre, ça serait pas loin du scandale, surtout au vu des blessures qu'il y a en défense du côté anglais. Et Gabriel, bien évidemment, qui est exactement le type de défenseur dont il a besoin, qui est un très physique, qui est quelqu'un également qui est fort en gueule, qui a énormément de présence, de charisme sur le terrain, et ensemble ils se complètent admirablement. Mais Saliba, c'est le calme, c'est le contrôle, et il n'a que 21 ans, et tout le monde s'émerveille de ses performances en Angleterre. Et j'utilise ce mot n'est pas une exagération. Et l'une des questions que l'on me pose le plus souvent ici à Londres, c'est est-ce que c'est vrai qu'il est possible que William Saliba soit pas dans le groupe de Didier Deschamps pour le Mondial? On dit, écoutez les gars, regardez ce qui s'est passé lors du dernier match des Bleus, à la mi-temps, il est sorti et il n'avait pas fait une très grande performance. Bon, Alors, cela dit, j'imagine que Didier Deschamps, même s'il ne se rend pas en Angleterre,
Regarde ce qui se passe,
regarde au
effectivement.
moins les matchs,
Oui.
regarde ce qui se passe. Et là, je pense qu'il aura regardé ce match et qu'il aura vu un William Saliba. Bon, je n'irai pas au sommet de son art parce que jusqu'où ce jeune garçon peut aller, ce jeune homme peut aller, nul ne le sait. Mais en tout cas, il est l'une des raisons pour lesquelles Arsenal aujourd'hui est en tête du championnat d'Angleterre. Ça ne fait pas le moindre doute.
Alors, il y a une équipe qui s'accroche au basque d'Arsenal et qui surtout vise de détrôner Arsenal en fin de saison, c'est Manchester City, qui a eu besoin d'un penalty miraculeux, on a envie de dire, à la dernière minute face à
Oui,
Fulham.
bon,
Je
bref.
crois que le geste de Kevin De Bruyne ne t'a pas beaucoup plu, Philippe?
Non, pas trop. Je le comprends. Je le comprends, mais cela dit, ce que je comprends moins, c'est qu'on en est très peu parlé en Angleterre.
Ouais.
Bon, il plonge, hein. Pour moi, ça ne fait pas le moindre doute. Ça fait partie de ces pénalties provoquées. C'est un petit peu Bobby Pires contre Portsmouth en 2003-2004 pour parler des pénalties célèbres. Il me fait également penser à certains pénalties que, par exemple, Raheem Sterling a pu provoquer pour Manchester City. Et à chaque fois, Raheem Sterling se fait conspuer quand il fait en fait exactement la même chose que quasiment tous les autres avant-centres ou joueurs de football qui se retrouvent dans une situation pareille. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que l'arbitre est accordé ce penalty. Et ce que je comprends encore moins, c'est que la vidéo assistance
N'est pas,
n'est
ouais.
pas dit à l'arbitre, écoute, viens regarder parce que franchement,
C'est un peu léger.
clear and obvious, clair et évident. Non, mais en fait, il provoque le choc. Et qui dit choc ne dit pas nécessairement faute, contrairement à ce que disent certains consultants. Et là, il y a en effet un petit contact, mais le contact n'est pas une faute. Et ce penalty, mon miraculeux, 94e, cela dit, j'allais dire, ça suit presque une espèce de logique qui est la logique de Manchester City, ce rouleau compresseur que rien n'arrête. Même Erling Haaland loupe son penalty, hein, très honnêtement.
Oui,
Bernd
c'est vrai.
Leno devrait le sauver. Le ballon frappe sa main, mais pas juste en dessous, mais il n'est pas bien tiré. D'ailleurs, Haaland a dit après le match, qu'il n'avait jamais été aussi nerveux au moment de tirer un penalty. Mais bon, au définitif, comme d'habitude, pour reprendre un petit peu l'expression de Gary Lineker, les matchs de Manchester City, voilà, c'est ça le football. C'est un match d'un Manchester City. On joue 90 minutes et à la fin
C'est
de la
Manchester
rencontre,
City
ben,
qui gagne.
Manchester City prend les 3 points. Et ça paraît inexorable. Et très honnêtement, même. Vu l'état de forme actuel d'Arsenal, on imagine très difficilement qu'il puisse soutenir un rythme pareil, qui est un rythme à plus de 100 points par saison. Et pour qu'une équipe fasse un saut pareil, qui a presque le rythme au passage de Manchester City depuis quelques années, ce n'est pas du tout celui d'Arsenal ou des autres équipes. Donc la logique voudrait que à un certain moment, ben, voilà, Manchester City reprenne la main et gagne un nouveau titre de champion d'Angleterre. Auquel cas, il va peut-être falloir commencer à se poser des questions sur la fameuse compétitivité de cette première ligue. Mais ça, c'est un
C'est
débat
un
que nous
autre
aurons un
débat.
autre
Oui,
jour.
tout à fait. On va terminer cette page anglaise, peut-être Philippe, par un tout petit mot d'un revenant. Unai Emery, de retour en première
Oui.
ligue du côté d'Aston Villa cette fois-ci, et qui bah, a simplement corrigé Manchester United, qui restait sur des prestations plutôt encourageantes en première ligue, et qui bah, n'a pas vu le jour presque face à Aston Villa.
Non, ils ont laissé des boulevards au milieu de terrain, ils ont laissé des boulevards en défense. On a vu une équipe d'Aston Villa très entreprenante, bon, avec la patte Emery, à savoir que c'était très très bien organisé, ça on le sait. Tactiquement, c'était très très bien mis en place. Mais enfin bon, Emery, c'est un petit peu la kryptonite de Manchester United, hein, souvenez-vous, avec l'Europa League en particulier. Et en l'occurrence, on a vu une équipe de Manchester United qui, oui, dont le midfield a complètement sombré. Cristiano Ronaldo de nouveau titularisé, mais bon, je ne pense pas que c'est le genre de titularisation dont il sera particulièrement satisfait ou qui garantisse qu'il le soit à nouveau la semaine prochaine, parce qu'il a été, bon, il n'a pas été inexistant, mais il n'a pas vraiment pesé
Anonyme,
sur
oui.
cette rencontre. Oui, un peu anonyme, et Erik ten Hag, à la fin de la rencontre, de toute façon, a admis que son équipe était simplement pas dans le coup, avait pris. Et très honnêtement, on aurait pu prendre encore davantage de buts, vu le nombre d'occasions qu'ils ont concédées face à cette excellente Aston Villa.
Et ben voilà pour le débrief anglais cette semaine. On va quitter l'Angleterre pour aller bien
Juste
plus.
un
Ouais,
petit mot quand même.
bien sûr, Philippe.
Juste un dernier mot quand même pour signaler le retour, entre guillemets, de Liverpool.
Oui, bien
On ne
sûr,
peut
ben
pas ne
oui,
pas.
c'était bien
C'est quand
sûr.
même. L'irrégularité des résultats de Liverpool est... C'est effarant. Un jour, ils se font battre par Nottingham Forest. L'autre jour, ben, ils vont à Tottenham. Et ils gagnent à Tottenham. Et ils gagnent bien à Tottenham. Et Mohamed Salah est de nouveau le Mohamed Salah que l'on connaît, que l'on aime. Premier but, quelle merveille, hein. Le contrôle et la frappe dans le mouvement, c'était absolument somptueux. Donc ça confirme tout ce que l'on pensait de Liverpool, à savoir que c'est une drôle de crise. C'est plutôt une période de turbulence qui continue, qui continue, qui continue. Mais ils atterriront. Ça, je me fais. Ils vont pas exploser en vol. Ils vont atterrir et ça, tout le monde se calmera. Mais il reste totalement imprévisible. Par contre, du côté de Tottenham,
Là, c'est
Antonio
très prévisible
Conte,
pour le coup.
c'est très prévisible. Et je pense que la façon dont le public de Tottenham a salué ses joueurs à la fin de la rencontre, c'est-à-dire en les huant, est quelque chose qui n'est pas complètement, ben, qu'on ne doit pas nécessairement oublier de suite. Il va falloir qu'ils réagissent très rapidement, et dans les résultats, et dans la manière, pour essayer de rec faire recoller un petit peu les supporters de Tottenham avec leur équipe, dans laquelle ils ne se reconnaissent pas en ce moment.
Eh ben merci beaucoup Philippe, tu as eu raison de m'interrompre dans ma transition. Ça fait du bien de parler de Liverpool et de Tottenham. On surveillera tout ça. On tourne la page anglaise et on va
Oui.
désormais en Italie. Merci Philippe. On atterrit donc en Italie où on retrouve Guillaume Maillard Pacini, notre spécialiste de Serie A, qui a mis son petit col roulé. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur eurosport.fr, ça vous permettra de voir l'élégance à l'italienne. Salut Guillaume, comment ça va
Salut.
et comment s'est passé ton week-end de Serie A?
Écoute, c'était un gros week-end de série. Alors, il faisait pas forcément froid malgré mon col roulé, mais on a eu des gros chocs. Et voilà, on n'a pas été déçus des attentes. Il y a eu beaucoup d'enseignements à tirer de cette 13e journée de série ce week-end.
Alors avant de se projeter sur le choc qui a eu lieu dimanche soir entre la Juve et l'Inter, peut-être un petit mot d'un homme qu'on aime beaucoup évoquer dans Tour d'Europe, Olivier Giroud, auteur d'un but incroyable pour permettre à l'AC Milan de s'imposer, et Olivier Giroud qui attend désormais la liste de Didier Deschamps mercredi.
Bah écoute, c'est simple. Giroud, il a mis 2 buts contre Salzbourg et il permet à l'AC Milan de se qualifier en 8e de finale des Champions mercredi dernier. Samedi, il rentre, il marque un but assez dingue en fin de match face à Spezia. Clairement, hein, Cyril, si Milan ne gagnait pas ce match-là, alors le titre n'aurait pas été terminé, mais disons que c'était sérieusement compromis parce que devant le Napoli avance à toute allure, ils avaient gagné juste avant contre Bergame, donc ça avait mis quand même un petit peu de pression à l'AC Milan. Et voilà, dans un match assez serré, assez compliqué, Giroud rentre, il marque un but, voilà, une espèce de ciseau à la 89e minute. Problème, il avait déjà un carton jaune.
Ah oui.
Il était arrivé dans une espèce de bagarre où il était rentré un peu dans le jeu de Spezia. Il prend un carton jaune, il enlève son maillot, il l'oublie en fait. Et en fait, il prend son deuxième carton jaune après son but. Et c'est vrai que lui, ça m'a beaucoup voulu. Tu vois, la presse italienne disait quand même qu'il avait quasiment pleuré
Ah oui.
dans le vestiaire parce que ouais, il s'en voulait terriblement parce qu'il sait aussi que bah, il y a la liste de Deschamps qui arrive. Lui veut tout faire pour y être. Demain, mardi, il y a un match à Crémone. Il aurait pu le jouer, il aurait dû le jouer. Et le fait qu'il soit pas là, qu'il puisse pas participer, on va dire, au dernier match de Milan avant la trêve internationale, disons que ça lui a mis un petit coup. Mais ça n'empêche que la semaine dernière, Giroud a montré à tout le monde que lui voulait être au Qatar. Après, on verra bien si Deschamps sera du même avis.
Alors, il y a un autre Français qui s'est illustré dimanche, mais cette fois-ci pour la Juventus, Guillaume, c'est Adrien Rabiot, buteur, lors de cette victoire de la Juve face à l'Inter. Une victoire qui ressemble presque à un tournant pour la vieille dame. Guillaume, on va te poser une question franche. Vous voyez le classement de Serie A qui apparaît à l'écran. Le Napoli caracole, 6 points d'avance sur l'AC Milan. Mais la Juve, avec 25 points, est plus très loin finalement du podium et surtout de l'AC Milan. Est-ce que dans le scénario où le Napoli s'écroule un petit peu en deuxième partie de saison, la Juve finalement n'a pas encore toutes ses chances pour le titre?
Écoute, la Juve, il ne faut jamais les écarter totalement de la course au titre parce que ça reste évidemment un très grand club. Après, aujourd'hui, sur mon avis, je pense que l'objectif de la Juve reste quand même le top 4 parce que c'est la Ligue des Champions, c'est clairement vital pour le club, pour ce que ça engendre même au niveau des revenus. Donc, moi, je ne vois pas la Juve revenir à la course au titre. Je pense qu'ils ont pris trop de retard et je trouve encore que. Il ne faut pas oublier qu'ils ont fait une poule de C1, c'est catastrophique. Alors, ils avaient fait un match très digne contre le PSG où ils ne méritaient pas de perdre pour moi. Et c'est vrai que face à l'Inter, ils ont fait une première mi-temps assez compliquée. La deuxième, eh ben, on a vu tout ce que la Juve n'avait pas fait en ce début de saison. Ils ont joué avec le cœur, avec une âme. Ils ont joué en contre, évidemment, souvent avec Allegri. Mais ils ont mérité cette victoire parce que l'Inter aussi a disparu un peu du terrain. De là à les remettre dans la course au titre en Italie, on ne l'imagine pas parce que tu sais, il y a quand même 10 points de retard.
Ouais, avec le Napoli.
Donc, c'est un écart assez grand. Et surtout, Cyril, si le Napoli continue comme ça, je pense qu'il n'y aura pas grand suspense, même en deuxième partie de saison. Après, c'est une saison particulière. La Coupe du Monde, on le sait, bah, ça va engendrer d'autres facteurs à la reprise en janvier. On ne sait pas comment les clubs vont arriver. Il y a les huitièmes de finale de C1 qui vont aussi arriver. Donc, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Aujourd'hui, pour moi, le vrai duel de ce championnat sera Napoli-Milan. Mmh. Et Juve, pour qu'elle revienne vraiment dans la course, qu'elle grappille des points sur Napoli. Pour l'instant, c'est assez compliqué. Par contre, au retour de la trêve, il y aura un Juve-Naples qui, voilà, pourrait être un peu couperet, on va dire, dans la saison de la Juve.
Hier, je reprends les termes de ton tweet, tu disais que c'était la plus belle soirée de la Juve cette saison. Qu'est-ce qui a permis à la Juve de vivre ce dimanche soir-là? Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir peut-être pour la seconde partie de saison? On a vu que c'était très très compliqué jusqu'à présent. Là, il y a des joueurs qui commencent à trouver leur niveau. Je pense notamment à Kostic qui a réalisé un super match. On sait que la Juve, si elle parvient à vider son infirmerie, elle dispose quand même malgré tout d'une armada assez importante.
Tu parlais de motifs d'espoir. Allez, voilà, le fait qu'ils puissent récupérer Paul Pogba.
Ouais.
Et qui n'a pas joué une seconde en match officiel depuis son retour. Il a fait la tournée, mais il s'est blessé aux USA. Et après, voilà, il est parvenu en match officiel. Mais évidemment, le fait de récupérer des Vlahovic qui était aussi absent hier, des Di Maria qui est rentré en fin de match, Chiesa, Cyril, qui est revenu contre le PSG, qui est rentré hier. Le fait de retrouver son effectif au complet pour évidemment donner un autre visage à cette Juve-là. Après, la soirée d'hier était très belle parce que battre l'Inter dans le derby d'Italie, on sait que c'est la rivalité assez moderne, mais c'est une rivalité très forte. Et le fait que la Juve sorte ce supplément d'âme à ce moment-là de la saison, c'est très important parce que les supporters aussi en ont besoin. Hein. Donc, mais le fait que Di Maria, que Pogba, que Vlahovic, que Bremer aussi est revenu hier, le fait que tout le monde revienne, et surtout Chiesa, parce que ça reste vraiment pour moi l'élément qui manque cruellement depuis le 9 janvier, hein, jour de sa blessure. Ouais. 9 janvier dernier. Donc, le fait qu'elle remette un peu toutes les pièces du puzzle au centre de tout ça pourra permettre à la Juve de faire une bonne partition. Il y aura la Ligue Europa aussi.
Tout à
le fait que la Juve fait aussi partie aujourd'hui des favorites de cette Ligue Europa. Il ne faut pas se mentir. Donc, ça peut être un objectif, même si évidemment, c'est pas Ligue des Champions. Mais en championnat, il y a un peu trop de retard. Mais avec la Juve, tu sais, il ne faut jamais dire jamais. Surtout avec Allegri, tu sais. Aujourd'hui, il a été décrié pour le jeu qu'on voit, pour ce qu'il propose sur le terrain. Mais ça reste un entraîneur, un vieux briscard, comme on dit. Donc, avec lui, tu sais, les victoires 1-0, 2-0, c'est toujours arrivé vite. Donc, il faudra quand même se méfier de la Juve sur sa deuxième partie de saison à partir du mois de janvier.
Toujours aussi efficace, Guillaume. C'est le Pippo Inzaghi du journalisme italien. Merci beaucoup, Guillaume.
Merci, Cyril.
D'être venu dans Tour d'Europe. Nous, on part de l'Italie et on va désormais en Allemagne. On enchaîne ce Tour d'Europe par l'Allemagne, tout simplement parce que les Allemands sont dans la même situation que les Français. Ils vont connaître cette semaine la liste des sélectionnés pour la Coupe du Monde au Qatar. On accueille David Lortolari, notre spécialiste du football allemand. Salut David. J'imagine que c'est un petit peu pareil qu'en France. On ne parle que de la liste ces derniers jours et de savoir qui y sera et qui n'y sera pas.
Oui, alors il y a deux choses. Il y a le fait que en tête du classement de Bundesliga, le Bayern a pris l'avantage de manière officielle ce week-end. Bien sûr que ça fait débat et ça fait discuter, mais la liste, bien sûr, parce qu'il y a des joueurs en balance, parce qu'il y a des joueurs qui sont à peine rétablis, comme Manuel Neuer dans les buts pour son épaule, ou Thomas Müller qui tremble encore un peu, même s'il fait semblant de faire croire que non. Donc évidemment, c'est le thème principal de la semaine, c'est clair.
Alors, avant peut-être parler de la liste, il y avait un cas que tu voulais évoquer qui fait beaucoup parler en Allemagne, c'est le cas Musiala, exceptionnel avec le Bayern Munich. Est-ce qu'il sera titulaire avec la Mannschaft? Et si oui, à quel poste?
Oui, alors Musiala, évidemment, il a démontré match après match de manière constante qu'il avait la technique, qu'il avait la vista, qu'il avait la vision du jeu pour participer au jeu qu'en Allemagne on souhaite installer depuis Joachim Löw, c'est-à-dire beaucoup de mobilité, beaucoup de virtuosité technique. Il est en plein dedans, malgré sa grande jeunesse encore, et Musiala va être appelé évidemment par le sélectionneur Hansi Flick. Après, pour le poste, c'est un petit peu comme un Kai Havertz, c'est-à-dire que ça peut être un milieu de terrain derrière l'attaquant, ça peut être un joueur qui éventuellement, même si c'est un peu moins sa préférence, évoluerait sur un côté.
Ouais.
Et ça pourrait être aussi, en cas de besoin, en cours de match, un finisseur. Donc vraiment, il y a les trois possibilités. Son poste de prédilection serait, je reste au conditionnel parce qu'il y a embouteillage quand même à cet endroit-là, serait derrière l'attaquant, serait un poste axial. Milieu de terrain offensif, c'est ce qui lui convient le mieux, c'est vrai.
Mais on est d'accord qu'avec la présence de Thomas Müller, c'est très difficile de lui donner ce rôle-là avec la Mannschaft.
Exactement, c'est pareil qu'avec le Bayern, c'est-à-dire que si Müller joue, c'est souvent quand même derrière le joueur le plus offensif, l'attaquant de pointe. Donc Moussiala se retrouve assez souvent soit un cran en dessous avec un milieu de terrain qui écope.
Ouais.
Ça peut fonctionner si vous avez un numéro 6 de métier, avec lui ça c'est complémentaire, ou alors un peu sur un côté sans être évidemment un pur ailier, mais on l'a vu jouer très très proche de la ligne de touche à plusieurs reprises avec le Bayern, notamment côté gauche. Il est aussi très à l'aise parce qu'il est très bon dans les petits espaces pour combiner avec un défenseur latéral, ça marche aussi. Donc vraiment là pour le coup le sélectionneur a le choix avec Moussiala.
Alors on va parler de la liste maintenant si tu le veux bien, David, parce qu'on vient de parler des 11 titulaires, mais ça joue ailleurs évidemment pour certains. On a retenu 5 noms qui sont en balance dans cette liste qui sera donnée jeudi par Hansi Flick. Marco Reus, Mario Götze, Julian Draxler, Niklas Füllkrug et Moukoko, évidemment, la pépite de Dortmund. De ces 5-là, est-ce qu'il y a des favoris naturels à être présents dans la Mannschaft, et pourquoi, par exemple, on parle encore d'un Mario Götze possiblement candidat à cette liste?
Mais là, on est dans une saison très particulière avec la nécessité pour un sélectionneur de jouer sur l'état de forme du moment, parce qu'il ne va pas y avoir de préparation, il ne va pas y avoir de match pour se régler. Donc forcément, on joue sur l'état de forme. Il y en a qui partent plus loin que d'autres, bien sûr. Mario Götze, le buteur de la finale 2014, a ensuite eu beaucoup, beaucoup de mal à s'imposer. Il ne s'est pas imposé au Bayern, il est reparti dans un autre club. Il a poursuivi son aventure avec Eindhoven aux Pays-Bas. Il s'est bien redressé et c'est quand il était à Eindhoven Götze qu'on a recommencé à parler de lui pour la sélection. C'est pas certain qu'il y aille parce que sur les milieux offensifs au Bayern, il y a quand même énormément de possibilités. Et il va y avoir des choix à faire pour le sélectionneur. On peut imaginer, par exemple, c'est thématisé depuis ce week-end en Allemagne dans les médias, on peut imaginer qu'il y a un choix cornélien à faire, Cyril, entre Reus et Götze, par exemple, qui n'ont pas forcément exactement le même poste, mais qui sont des anciens, un petit peu sur le retour, si on peut se permettre cette expression. Il va y avoir des choix à faire parce que les jeunes ont pris un petit peu le pouvoir. On parlait de Moussiala et il s'est imposé et il sera dans le groupe. Et derrière, il y a des choix à faire évidemment offensivement pour vraiment pour occuper tous les postes. Voilà, il y en a qui partent de plus loin que d'autres. Reus, toujours en délicatesse avec son physique. Donc ça, il faut vraiment… c'est un pari. C'est un pari. Et Götze, est-il meilleur que d'autres joueurs qui peuvent jouer un peu à ce poste? C'est la question. Le sélectionneur aura-t-il la tendresse de rappeler un joueur qui quand même… est en train de montrer de très belles choses avec Francfort. Il fait une super saison, il est très technique et il apporte vraiment beaucoup. Je ne veux pas m'avancer sur ce point parce que c'est vraiment un choix in fine à faire vraiment en conscience, on va dire.
Avant de parler du poste d'attaquant, un petit nom, Julian Draxler, qui était quand même un homme de base de Joachim Löw, il part de trop loin désormais.
Oui, c'est mon avis. Après, avec Löw, il y avait cette espèce de confiance qu'il avait accordée à des Podolski, à des joueurs qui étaient vraiment des permanents, même si leur niveau de club fluctuait. Draxler, on n'a jamais fermé la porte officiellement. On a toujours considéré qu'il faisait partie des possibles. Mais là, franchement, dans la conjoncture de cette saison 2022-2023, il part de très loin, ce serait une surprise. Il peut y avoir une ou deux surprises, peut-être éventuellement en défense aussi, mais pour les offensifs, j'ai un peu de mal à y croire en tout cas.
Alors, on va parler du poste d'attaquant parce que en plus, l'Allemagne a appris le forfait de Timo Werner la semaine dernière, ce qui laisse une place devant. On sait que ce soit au Bayern où on parle beaucoup de l'absence d'un buteur, même si Choupo-Moting marque beaucoup, mais il manque un numéro 9 à proprement parler. C'est un petit peu pareil finalement dans l'équipe d'Allemagne. Et il y a deux profils qui reviennent de plus en plus dans les discussions. C'est donc Niklas Füllkrug et Youssoupha Moukoko. Est-ce que l'un des deux part favori pour être présent dans la liste? Il faut dire que ces deux-là n'ont aucune sélection avec la Mannschaft pour l'instant.
Oui, Niklas Füllkrug, c'est l'une des belles histoires de cette saison. Il est dans le haut du classement des buteurs, dixième but le week-end passé avec le Werder Brême, et il a participé grandement à la courte victoire contre Schalke. C'était décisif avec son compère de l'attaque Marvin Ducksch. Füllkrug, ce serait intéressant. C'est un joueur qui a maintenant un certain âge, qui est passé par Hanovre, qui était au Werder Brême il y a déjà bien longtemps aussi, qui a un petit peu ce profil des joueurs qui sont, allez, je vais être un peu dur, à cheval entre la deuxième division, qui est très compétitive en
Oui.
Allemagne, et la première division. On a eu le cas aussi avec Terodde, à un moment donné, qui était l'attaquant de Hambourg et de Schalke, où on se demandait, comme il empilait les buts en deuxième division, est-ce qu'on ne pourrait pas l'appeler? Ça dépannerait pour le poste de numéro 9. Füllkrug est un peu dans ce cas-là. Comme il marque régulièrement cette saison,
Oui.
malgré un petit creux récemment, on peut imaginer qu'il soit clairement dans la tête du sélectionneur. Ça sera pas non plus l'avant-centre qui cassera tout à la
Bien
Coupe du
sûr.
Monde, ça j'ai du mal à y croire. Et puis en face, ou pas d'ailleurs, parce qu'il pourrait appeler les deux, il y a un Moukoko qui s'est installé, qui s'est affirmé avec le Borussia Dortmund, qui fait que Anthony Modeste, qui avait été rappelé en catastrophe en fin d'été pour renforcer l'attaque de Dortmund avec la mise de côté de Haller. Pour des raisons médicales, ne joue pas en fait Anthony Bolles. C'est Moukoko qui est le plus souvent sur le terrain et il est brillant. Il est brillant, il est en confiance. Il profite des joueurs qui virevoltent autour de lui et en sélection, c'est un peu pareil. Vous allez avoir des bons techniciens
Bien
autour,
sûr.
donc l'avant-centre peut être un joueur en confiance, même s'il n'a pas de référence, même si ça n'est pas un closeur avec ses 140 sélections. Oui, Moukoko, on peut y croire parce qu'il est vraiment sur une dynamique. Il ne se pose pas de questions. Il commence à marquer des buts importants pour Dortmund, qui remonte dans le classement. Ce serait logique. Vraiment, pour les deux, là, il y a des arguments. Et pour moi, ce n'est pas forcément opposé parce que Flick va
D'accord.
avoir besoin de solutions comme attaquant axial.
Il y a quelques semaines, tu avais réalisé un article pour Eurosport sur la disparition du numéro 9 allemand. Alors, Moukoko, on voit un petit peu plus le profil. C'est un attaquant moderne, tu l'as dit, très complet, polyvalent, mais surtout qui allie vitesse et précision. Füllkrug, pardon, on est davantage sur un 9 à l'ancienne, un petit peu dans la pure tradition des bombers allemands.
Oui, c'est un peu moins mobile, effectivement. Il a l'habitude aussi de jouer avec deux attaquants axiaux. C'est
D'accord.
souvent le modèle, le système utilisé au Werder Brême. Donc, ça nécessiterait peut-être effectivement des adaptations. Mais les autres noms que vous connaissez, Leroy Sané, Serge Gnabry, Thomas Müller, un Moussiala avancé, un Kai Havertz avancé, ce ne sont pas des avant-centres purs.
Bien
On
sûr.
voit qu'au Bayern, ça résout énormément de problèmes avec Choupo-Moting en ce moment, l'attaquant classique, l'attaquant puissant. Füllkrug, il est un peu là-dedans. Il est aussi bon de la tête. C'est l'un des joueurs qui gagne le plus de duels de la tête, Cyril, en Bundesliga en pourcentage. Et il en a ramassé énormément des ballons de la tête. Il est pas maladroit aussi dans le jeu au pied. Moins mobile, en revanche, c'est vrai que les attaquants les plus modernes comme Moukoko. Mais voilà, un profil qui peut être très utile pour une équipe dans laquelle il y a de la mobilité autour. Pour moi, il y a encore une fois de forts arguments pour appeler un attaquant un petit peu à l'ancienne comme ça.
Et ben voilà, rendez-vous jeudi sur Eurosport.fr pour connaître les réponses apportées par Hansi Flick quant à la Mannschaft et pour connaître donc les heureux élus pour le Qatar. Merci beaucoup David, on va tourner la page allemande et on va désormais en Espagne. Et allez, on termine ce tour d'Europe par un détour par l'Espagne. On accueille Anna Caro, notre spécialiste Liga. Comment ça va, Anna?
Ça va très bien, et toi?
Ça va. Écoute, alors, je suis un petit peu inquiet pour être tout à fait sincère avec toi. On a vu que Karim Benzema allait encore être absent ce lundi du groupe madrilène. Carlo Ancelotti s'est voulu rassurant quant à sa participation à la Coupe du Monde. Rassure-nous aussi, tout va bien se passer pour Cabanové.
Oui, a priori, aucun doute. Lui a dit qu'il s'était très bien entraîné vendredi. Donc, s'il est capable de faire une bonne séance complète d'entraînement vendredi, c'est que c'est quand même pas si grave que ça. Il a juste dit que samedi, du coup, ça avait été un peu plus compliqué. Donc, hier, dimanche, ça a été comment, pareil. Il a dit que c'était insuffisant. Donc, il avait préféré ne pas prendre de risques. On sait qu'aujourd'hui, le Real Madrid est beaucoup moins dépendant de Karim Benzema qu'il avait pu l'être lors des saisons passées. Carlo Ancelotti sait aussi combien la Coupe du Monde est importante pour Karim Benzema. Donc, il fait en sorte de reposer Karim Benzema avant cette échéance. Et sachant aussi qu'il y aura un match en semaine là en
Tout à
Liga.
fait.
Donc, peut-être que dans ce cas-là, il sera de retour à ce moment-là, Karim Benzema, pour se tester un peu avant de partir au Qatar.
Parfait. Bon, bah, merci déjà de nous avoir assuré, Anna. On va parler d'un club où c'est un petit peu le bazar actuellement. C'est Villarreal. Pourquoi c'est le bazar? Parce que ils ont démarré la saison avec Unai Emery comme entraîneur. Unai Emery, dont on a parlé quelques minutes plus tôt avec Philippe Auclair, qui est devenu entraîneur d'Aston Villa. Et c'est Quique Setién, qui était déjà venu à la rescousse du Barça il y a quelques mois, qui est donc venu en renfort à Villarreal. Et déjà, Quique Setién, ses supporters demandent son départ. Explique-nous comment on est arrivé à cette situation, sachant que Villarreal avait réalisé une saison, la saison passée, absolument incroyable, notamment en Ligue des Champions.
Comment on en est arrivé là? En fait, c'est un peu le départ d'Unai Emery est tombé vraiment à un très mauvais moment pour Villarreal. Mm-hmm. Faut savoir que le vice-président, qui était le président historique, qui s'appelle Yanessa, est décédé d'un cancer juste avant que Emery parte. Donc ça a été un très gros coup dur en interne, parce que bon, même s'il n'était plus trop président, etc., ça reste une figure très importante, surtout dans un club comme Villarreal, qui est une institution très familiale, donc mm-hmm. où chaque membre a un lien important, avec jusqu'aux joueurs, jusqu'à l'entraîneur. Unai Emery, lui, avait une stature très très importante à Villarreal. En plus, il avait très bien compris dans quel club il arrivait. Il s'était lui-même mis à avoir cet entourage avec les joueurs, à déjeuner souvent avec eux, à déjeuner avec les familles, etc. Donc tout allait très très bien à Villarreal. Et finalement, Unai Emery part et tout s'effondre. Ce qui est un peu surprenant, c'est le choix de Quique Setién pour le remplacer, parce que c'est pas du tout le même football que celui que pratiquait Unai Emery, mm-hmm. Parce que ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu sur un banc, parce que quand il arrive, il dit honnêtement que ça fait 2 ans qu'il a pas vu de football, donc c'est assez inquiétant. Donc en fait, c'est tout cet entourage-là qui est très... Tout a chuté d'un seul coup. Et aujourd'hui, ça se répercute sur le terrain.
Est-ce qu'on a compris le choix de Unai Emery de quitter Villarreal pour aller à Aston Villa? On imagine qu'il y a eu des arguments financiers importants, évidemment. Unai Emery aussi avait envie de retenter sa chance en Première Ligue. C'est ça l'explication qui prédomine en Espagne?
Il avait envie, en fait, dans tous les cas, il avait senti que sa page à Villarreal était finie. Dans sa conférence de presse de départ, son communiqué de départ, il dit que dans tous les cas, il serait parti en fait à l'issue de la saison qui arrive là, et que une offre, il le dit pas lui-même, mais qu'une offre comme celle qui était d'Aston Villa, avec les montants d'Aston Villa, c'était impossible pour lui de refuser ça. Surtout qu'en plus, si on regarde l'effectif d'Aston Villa, comment il est construit, ça convient parfaitement au football que veut Unai Emery. On l'a vu ce week-end, du coup, avec la victoire contre United. Donc en fait, c'était trop beau, entre guillemets, pour Unai Emery, pour pouvoir le refuser. C'est juste dommage qu'effectivement, ça arrive juste avant cette Coupe du Monde, alors que le changement aurait peut-être pu s'opérer quelques semaines plus tard. Et dans ce contexte institutionnel compliqué à Villarreal.
Alors, on a parlé d'Emery, peut-être encore un peu plus sur Quique Setién. Donc, l'aficion de Villarreal le réclame déjà dehors. Est-ce que, premièrement, ça peut arriver dans les semaines qui viennent? Et surtout, comment tu expliques qu'il ait eu ce discours assez surréaliste de dire qu'en gros, il avait coupé après le Barça, parce qu'on sait que ça avait été très compliqué pour lui à gérer émotionnellement parlant, et que depuis, il avait un peu perdu de vue le football, et le football espagnol en particulier?
Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que Quique Setién peut partir? Honnêtement, ce serait compliqué. Mm-hmm. Déjà parce que ce serait un peu un aveu de faiblesse de la part de l'actuelle direction, et qui n'a pas spécialement besoin de ça dans le contexte actuel. Après, le fait est que Aston Villa a payé 6 millions à Villarreal pour payer la clause de Unai Emery. Ouais. Donc ces 6 millions laissent une certaine liberté et font dire que pourquoi pas. Si vraiment on voit que, par exemple, là, pendant la trêve, pendant la Coupe du Monde, on voit que les choses ne s'améliorent pas au sein de l'effectif, etc., peut-être que la direction pensera à changer d'entraîneur. Mmh. D'autant que ce que je disais, Quique Setién, ça ne correspond pas vraiment à l'effectif. Le jeu de Quique Setién ne correspond pas spécialement à l'effectif qu'il a là à Villarreal. Le vrai point de... Le tournant qu'il peut y avoir, ça va vraiment être au niveau des cadres, parce que Quique Setién, quand il est arrivé, il a mis Raúl Albiol sur le banc. Et ça, c'est très très mal passé à Villarreal, parce que c'est vraiment le pilier de la défense, mais aussi c'est l'image de Villarreal, c'est l'image du combattant, etc., du mec qui n'était pas forcément favori pour... à un moment, on a quand même pensé à Raúl Albiol comme titulaire à la Roja. C'est que vraiment, il a passé un cap exceptionnel avec Unai Emery. Dès que Quique Setién arrive, il le met sur le banc. Et on sent que déjà, il y a des questions sur le jeu de Quique Setién auprès des cadres.
Oui.
Pau Torres, notamment, qui n'a pas du tout caché le fait qu'il est un peu dubitatif. À la fin du match hier, il dit quand même... normalement, ces matchs-là, on avait du mal à les gagner à l'extérieur, ce qui est vrai. Le Villarreal a du mal à l'extérieur. Mais si, en plus, on ne les gagne pas à la maison... trois petits points. Ouais. Donc ça veut bien dire que il a perdu un peu son groupe. Pour l'instant, Raúl Albiol demande à ce que il y ait du temps qui soit laissé à Quique Setién. Il le dit, c'est pas du tout le même jeu, c'est pas l'effectif est pas forcément construit pour ce jeu-là. Mais le problème, c'est que le jeu de Quique Setién, il est aussi un peu obsolète parce que c'est un jeu avec beaucoup de possessions, beaucoup de passes, mais très très peu de danger. Hier, on a vu, c'était 0,05 d'expected goal sur la première sur la première période. Et c'est Mallorca en face. Mmh. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer le bas de tableau. Donc, il y a vraiment beaucoup de raisons de s'inquiéter, surtout quand les matchs d'avant n'ont pas montré plus de garanties.
Et ben voilà pour ce petit épisode Villarreal. Merci beaucoup Anna. Vous le savez, ce lundi, c'est aussi le tirage au sort de la Ligue des Champions. Vous pourrez retrouver cet après-midi un petit bonus avec le tirage du Paris Saint-Germain analysé par nos correspondants. Nous, on va se quitter pour ce lundi. On se donne rendez-vous lundi prochain, même jour, même heure. Petit rappel, évidemment, Tour d'Europe est à retrouver chaque lundi sur vos plateformes d'écoute. Vous tapez Eurosport FC pour trouver Tour d'Europe. Et puis, vous trouverez aussi Mercredi Mercato et la Stream Team, qui sont les trois émissions football, les trois podcasts football d'Eurosport. Et sinon, rendez-vous sur Eurosport.fr pour les meilleurs moments de cette émission en vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine, donc, et bonne semaine d'ici là.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.